I'm speaking now as a pastor.
Maintenant, je vous parle en tant que pasteur.
The Bible talks about those who endure to the end.
La Bible nous parle de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin.
So it's important that we remain alert in mind and spirit.
Et c'est important que nous restions en alerte dans notre esprit et dans notre intelligence.
Right to the close.
Jusqu'à la fin.
Don't miss anything.
Ne ratez rien du tout.
That God has got for you.
Que de ce que Dieu a préparé pour vous.
In this last hour.
Dans cette dernière heure ensemble.
So put your right hand up.
Alors levez votre main droite.
Okay. Good. And say,
et dites,
I'll take everything.
Je prends tout ce qu'il me donne.
Come on.
Je prends tout.
There you go. Everything.
Tout.
Tous. Now keep your hand up.
Et gardez vos mains.
Say these words. I promise.
Je promets.
No, sérieusement. I promise.
Je promets.
To give Robert.
De donner à Robert.
My full attention.
Mon attention complète.
I'm going to encourage him.
Je vais l'encourager.
With smiles.
Avec des sourires.
And bright eyes.
Et des yeux éclairés.
Because.
Parce que.
Chris is watching me.
Parce que Chris me regarde. You say Chris, you didn't say Christ.
It's an important distinction.
C'est une très bonne distinction. Yeah.
Because you can put your hands down. Because Chris is in Christ.
Parce que Chris est en Christ. Chris est en Christ.
Robert, I do sometimes get messages.
Je reçois parfois des messages.
To Christ per water.
Pour Christ per water.
Oui.
And that's the truth.
Yeah.
Robert. Je reçois des messages.
So, let's thank God for Robert.
J'aimerais dire que ce qui vient d'être dit, c'est pas une blague, hein. Si Christ est en vous, moi, il y a des moments où je sais que je suis Robert Christ. Mais je veux pas vous mettre dans l'inquiétude, donc je ne vais pas aborder cette question. Mais si jamais vous y réfléchissez, Juste comme ça, hein, juste, mais entre nous et puis vous n'en parlez pas, d'accord ? Mais vous vous poserez la question, pourquoi dans les textes il nous est parlé de Jésus ? Pourquoi il nous est parlé de Christ ? Pourquoi il nous est parlé de Jésus-Christ ? Et pourquoi il nous est parlé du Christ Jésus ? Pourquoi dans le même chapitre, Paul parle de Christ. Dans les mêmes lignes, après, il parle de Jésus. Mais je ne veux pas vous troubler. Mais interrogez-vous. Et là, j'en vois qui sont en train de dire « Oh, oh ». Ceci dit, je ferme la parenthèse. On se rappelle de ce que on a commencé à partager. Alors, j'avoue que, sachant que j'avais 2 fois 45 minutes, j'avoue que tout à l'heure, je suis allé peut-être très très vite et que des choses, j'aurais peut-être dû les prendre plus de temps pour les expliquer. Et j'espère que vous avez pu prendre les choses en route. Mais je voudrais simplement résumer en disant. C'est important de savoir que nous avons une intériorité, que nous ne vivons pas avec notre extériorité, mais avec notre intériorité. Et j'en ai pour preuve différents textes qu'on trouve dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'homme intérieur. Alors je vous donne simplement ces versets pour que vous puissiez vérifier que quand je vous parle d'intériorité, le texte nous parle d'intériorité. Et il nous parle de l'homme intérieur. Et 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « Quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et pour ça, il faut avoir la conscience qu'il y a un homme intérieur, qu'il y a en nous quelque chose qui est complètement différent de l'homme extérieur. Et l'homme extérieur, c'est ce que l'on voit. L'homme intérieur, c'est ce que l'on ne voit pas. Et la vie de l'esprit nous amène toujours, non pas à entrer dans les choses que l'on voit, mais dans les choses que l'on ne voit pas. Et c'est pour ça que nous entrons dans les choses de l'esprit. Et je l'ai peut-être déjà dit ici, mais pas dans cette session. À une époque, j'ai été la première église dont je me suis occupé, elle était à Monaco. Et là, j'avais le privilège d'aller chez le cousin du frère de sa belle-sœur, pas du prince, mais de quelqu'un qui travaillait dans le château. Et on avait l'autorisation de venir tous les soirs avec notre petit bidon et je venais pour chercher du lait pour mes enfants. C'est-à-dire que j'avais le lait des vaches du prince. Vous voyez l'avantage que j'avais, j'étais un homme béni. Quand même, je donnais à mes enfants le lait des vaches du prince, parce que le prince a une ferme au-dessus de Monaco, et j'en bénéficiais. La question, c'est que j'ai jamais vu le prince. Je suis même jamais entré dans le château. Je voyais le château de l'extérieur. Mais j'ai jamais vu le prince, j'ai jamais mangé avec lui. Regardez, je bénéficiais des grâces du prince, j'avais du lait pour mes enfants, mais je ne connaissais pas le prince. Et ça m'interroge concernant ma vie. Je peux être au bénéfice des bénédictions de Dieu, ce n'est pas pour cela que je connais Dieu. Je peux être au bénéfice des dons spirituels que Dieu même me donne, et ce n'est pas la démonstration que je connais Dieu. Ouh là là ! Alors on peut... Non, non, c'est un don. C'est un don comme, par exemple, un don naturel. Un don naturel. Il y a des gens qui se targuent d'avoir un don naturel. Mais un don naturel, qui t'a donné ce don-là ? Sinon, Dieu. Et il y a des gens qui ont un don naturel, parce que naturellement, ils jouent du piano. C'est un don, mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent Dieu. Et il y a des gens qui exercent des dons spirituels, pardonnez-moi. Oui, ils ont cru en Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, toujours. Je ne dis pas qu'ils ne le connaissent jamais. Je dis qu'on peut exercer des dons spirituels sans vraiment connaître Dieu de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Zundel, mais il a écrit quelque chose qui, moi, m'a marqué profondément. Il dit « Je ne crois pas en Dieu ». Alors ça commence mal. « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Vous comprenez la provocation, là, un peu ? Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Alors, maintenant, je vais vous dire qui a écrit ça, et peut-être que certains vont être complètement déçus et découragés. C'est un prêtre catholique qui, quand il a écrit pas mal de livres, a été rejeté de l'Église catholique. Et puis aujourd'hui, maintenant, les catholiques commencent à se dire oh, « il a écrit quand même des choses ». Et maintenant, il est reconnu. C'était un Suisse. Du côté de sa mère, ils étaient protestants. Du côté de son père, ils étaient catholiques. Et voilà. Et puis, mais quand vous découvrez cet homme-là, oh, vous vous dites « là, il y avait quelque chose de profond. Je ne crois pas en Dieu. Je vis Dieu. » J'ai vraiment dans mon cœur ce désir de partager avec vous en vous disant, s'il vous plaît, vous qui êtes peut-être déjà sous les projecteurs, vous qui êtes peut-être déjà sur l'estrade en train de chanter, de jouer ou de faire autre chose, considérez qu'il y a une chose qui est essentielle. C'est ce temps où vous allez à la rencontre de celui qui est en vous et vous, d'une certaine façon, vous entrez dans cette intériorité pour être en communion et demeurer en Christ. Il y a un texte qui m'interpelle, enfin un texte, parmi les autres. C'est le texte où Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça me questionne, moi. Ça me questionne. Parce que, entre dans ta chambre, ouais, enfin, bon. Et pourquoi je ne peux pas entrer dans ma cuisine ? Bah, je peux entrer dans ma cuisine, fermer la porte. Ça serait pareil. Puis ça me pose une question, parce que de toute façon, le message de Jésus est un message universel. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quelle époque et n'importe où, doit pouvoir comprendre, l'entendre et le vivre. Je me dis, mais... Et ceux qui sont aujourd'hui, qui vivent dehors, comment ils font pour rentrer dans leur chambre ? Et alors, s'ils ne peuvent pas rentrer dans leur chambre, donc ils ne peuvent pas être visités, bénis ? Où est le problème ? Si vous allez en Afrique, par exemple, dans certains villages, moi j'y vais souvent, et dans certains villages, dans certains villages, il n'y a même pas une chambre, hein, il y a une case, puis c'est tout. Si vous allez dans le nord, un petit peu, dans le Grand Nord, il y a des yourtes et puis les gens ils vivent tous dans la yourte là au même endroit, il y a pas de chambre. Ah, ça me gêne un peu ce texte. Je pourrais même pas aller là-bas pour leur prêcher ça. Je pourrais pas parce que ils chambrent, ils savent pas ce que c'est. Et pourtant la chambre c'est, vous voyez où Jésus est en train. C'est comme quand il parle à la Samaritaine. Il dit, tu sais, tu es venu me demander de l'eau, mais l'eau véritable. C'est la source qui jaillit. C'est-à-dire, il est en train de dire, il y a une autre eau que l'eau que tu te représentes. Et là, il parle de la chambre, mais il parle d'une chambre très particulière. Et ça, c'est la chambre de ton cœur. La chambre de ton cœur. Parce que la chambre, c'est le lieu le plus intime qui soit là où tu habites, dans la maison. C'est le lieu le plus intime. Et quand tu rentres dans la chambre, si tu es marié, c'est quand même l'intimité de l'intimité. On ne peut pas faire plus intime. Allez, je pousse un tout petit peu plus loin l'image. C'est le lieu où tu te déshabilles et tu te mets nu. Et c'est là où on vient rencontrer Dieu. C'est dans la chambre. Et Dieu est en train de dire, oui, tu es le temple. Mais va jusque dans la chambre de ton cœur. Ton cœur, c'est la chambre de l'intimité. Et nous sommes vraiment appelé à aller jusque dans cette intimité. Et là, il y a plus de choses extérieures, il y a plus le paraître, il y a plus, on joue pas un rôle, et là, on remplit même pas un ministère, et là, on n'est pas en train de faire un discours devant quelqu'un, ou on n'est pas en train de chanter devant quelqu'un. Là, maintenant, on est là, jusque là. Imagine, là, tu rentres dans la chambre et tu es seul avec Dieu, et c'est dans l'intimité de l'intimité que tu es, et il y a même des moments où tu te trouves tout nu, c'est-à-dire tu n'as même rien pour te couvrir, tu es tel que tu es, et c'est là où tu es le plus vrai, là, maintenant. Tu es tellement vrai qu'il n'y a même rien qui te recouvre. Et là, entre dans cette chambre. Est-ce que quelquefois, il t'arrive de comprendre que tu peux... Mais ouais, en fait, la chambre, elle est là. Hein. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Entre dans la chambre de ton cœur. Il ne peut y avoir aucune action publique quand on sert Dieu, je dis bien aucune, si on n'est pas entré dans la chambre, vivre ce temps d'intimité avec Dieu. Je veux absolument être vrai avec vous. Il m'arrive parfois d'être dans certaines églises où il paraît que des fois les gens partent dans un chant inspiré. J'ai plus l'impression qu'ils sont en train de faire un bœuf. Vous savez ce que ça veut dire, un bœuf ? Parce que dans l'intimité avec Dieu, on ne fait pas un bœuf. Vous savez ce que c'est qu'un bœuf ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un bœuf. Hein ? D'accord ? Tout le monde peut faire un bœuf si tu sais bien jouer la musique. Mais quand tu rentres vraiment dans l'intimité de Dieu, et quand tu fais partie de cette intimité-là, ou tu ne fais rien, ou tu es conduit par l'Esprit. Il y a des moments où Dieu me demande de rien faire. Parce que si je faisais quelque chose, je serais en train de faire un bœuf. Je veux être très vrai avec vous. Il y a quelques semaines de ça. Je suis dans une église et puis j'ai apporté un message. J'ai 45 ans de métier. Quand même. Ça compte. Je sais prêcher. Et même, il y a des moments où je dis, je sais très bien prêcher. Il y a des choses que je connais et que je maîtrise bien. Et ce jour-là, je pense que j'ai apporté un très bon message. Mais tout d'un coup, en l'apportant, je me suis fait peur. Mais très honnêtement, je me suis fait peur. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train d'apporter, c'était creux. Ça venait pas de la source qui devait monter normalement. La source qui devait jaillir. Je sais. Je connais. J'enseigne. J'enseigne depuis des années, je sais. Et là, je me suis fait peur. Et pourtant, je peux vous dire que ce que je disais, c'était très intelligent. Et même ce que je disais, ça pouvait faire remuer les âmes sensibles. Mais tout d'un coup, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais attends là, mon gars, est-ce que tu parles avec la source qui est en train de monter, ou est-ce que tu parles simplement par les choses que tu sais ? Et quand on est dans la créativité quand on est dans la louange, dans l'adoration, si tu as déjà ce sentiment de savoir que tu sais, il y a un problème. Moi, je sais que je ne sais pas. Et je dis régulièrement, je suis arrivé à un âge où j'en sais assez pour savoir que je ne sais pas. Je ne sais pas, donc il faut que je laisse la place à cette source jaillissante. Et quand tu vas à la rencontre, dans cette intimité-là, il y a un moment où tu vas sentir physiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je le sens physiquement, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais c'est cette présence qui est beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus belle que moi, beaucoup plus intelligente que moi, beaucoup plus forte que moi. C'est cette présence-là qui est en moi et qui est en train d'agir. Et tu le sais, et tu le sais. Quand tu chantes, est-ce que ce qui est beaucoup plus grand que toi et qui habite en toi... Hello, il y a quelqu'un qui habite en toi? Ou toi, tu es tout seul avec toi-même? Est-ce que tu es tout seul avec toi-même ou il y a quelqu'un qui habite en toi? Et quand je suis tout seul avec moi-même, c'est creux. C'est creux. Vous savez, j'ai toujours été en admiration devant ceux qui conduisent la louange. Toujours en admiration. Toujours. Parce que je dis que c'est beaucoup plus difficile que de prêcher. Parce qu'il y a toute une partie, d'abord technique, qu'il faut maîtriser pour pouvoir l'oublier. Et puis, il faut être en plus très, très à l'écoute de l'esprit. Et en plus, pour ceux qui chantent, il faut chanter juste. Plein de choses que moi, je ne sais pas faire. Mais si quand tu conduis la louange, la source n'est pas en train de jaillir, tu risques de faire un bœuf. Mais ce n'est pas sûr que tu sois en train de louer Dieu. Le deuxième texte que je veux lire, c'est, pour vous donner simplement et vous parler d'intériorité, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 16. « D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Paul nous invite à cela. Être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Romains chapitre 7, verset 22. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Christ habite en nous. Nous avons la pensée de Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit. Christ est en nous, ça sous-entend que si Christ est en nous, s'il y en a un qui doit se taire, c'est moi. S'il y en a un que je dois entendre, c'est lui. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Wouf, tu sais, là, cet après-midi, j'ai prié 4 heures. » Et je dis « Et t'as écouté combien de temps ?» C'est marrant comme les gens parfois se vantent un petit peu du temps. Hein, ils disent, « Ah, j'ai prié 4 heures !» Oh, qui c'est qui prie plus ? Allez, on fait un concours, là. Non, mais attends, on arrête, bon. T'as prié, d'accord, mais combien de temps est-ce que tu as écouté? C'est-à-dire venir devant Dieu d'une certaine façon gratuitement. Gratuitement. Je viens juste pour écouter celui qui est en moi. Est-ce que vous avez remarqué que c'est pas si, parfois, surtout quand on commence, c'est pas si simple à rester dans le silence devant Dieu pour écouter. Oui ou non? Et on a besoin d'apprendre ça. Combien de temps est-ce que tu passes à écouter Dieu? Certains disent, mais Dieu ne parle pas. Est-ce que tu prends du temps pour écouter? On a l'impression des fois que dans nos églises, le silence est difficile à gérer. Surtout dans nos églises un peu évangéliques. Enfin, moi, ça fait 70 ans que j'y suis dedans, donc je peux en parler un tout petit peu. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, hein. Mais dès qu'il y a un peu de silence, il faut remplir là, hein. Oh là là, allez, fais quelque chose là. Chante un petit chant. Oh, j'aime bien quand on me dit ça, moi. Oh là là. Chante un petit chant. Hein? Non, mais à vous, on vous l'a pas fait déjà. Non, on vous l'a fait déjà, ça, hein? Je crois qu'on a besoin, je crois très sincèrement, qu'on a besoin d'apprendre le silence. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas écouter si on parle en même temps. Je ne sais pas, mais... de temps en temps, je rencontre des gens, je suis en train de leur parler, et tout de suite, ils ne se rendent même pas compte, ils sont en train de me parler aussi. Je dis, attendez, s'il y en a deux qui parlent, on ne va pas s'entendre. Ça m'est même arrivé, je dis, mais ça m'est même arrivé, un jour, je suis allé rendre une visite à un couple, ils étaient en train de regarder la télé. Alors, la porte était ouverte, j'ai frappé, personne ne m'a ouvert, ils étaient en train de regarder la télé. Donc, je suis rentré, je leur ai dit bonjour, puis ils regardaient toujours la télé, donc je me suis assis. Moi, j'avais des choses à leur dire, mais ils regardaient la télé, puis moi, au bout d'un quart d'heure, je suis parti. Ils ne se sont même pas rendus compte que je suis parti. Parce que... Alors, bon, ok. Mais c'est dommage. Si on avait baissé le son un tout petit peu, on aurait pu dire des choses intéressantes. Hein. J'ai pas pu. Et il y a des moments où je crois qu'il faut qu'on baisse le son un petit peu. Moi, je suis pour, mais franchement, je suis pour des moments Allez, on est exubérant, on danse, on saute, il y a des cris de joie, il y a du bruit, mais bien sûr que oui. Allez, on est heureux devant Dieu, on saute, on est prêt à... On en voudrait encore plus. Et puis il y a des moments où... J'ai tellement besoin de silence. Parce qu'il n'y en a qu'un que je veux entendre. Il n'y en a qu'un que je veux écouter. Parce que je peux même, il y a des moments, vous savez, je peux m'enivrer avec mes paroles. Je peux m'enivrer dans un moment d'exubérance. Même si je sais que c'est bien. J'ai besoin d'apprendre. Franchement, là, on a besoin de silence. Des fois, je me suis surpris à dire « Parle. Parle, ton serviteur écoute. » Et 10 secondes après, « Oui, mais Seigneur, hein, tu comprends, il y a ça. » Et le Seigneur me dit « Mais attends, tu ne me donnes même pas 10 secondes pour que je te réponde. » Est-ce que tu veux vraiment entendre? Est-ce que tu as vraiment faim d'entendre? Un jour, j'ai faim de ta présence. Et le Seigneur m'a dit, ah oui, t'as un petit creux. Hein. Parce que, il dit, mais tu sais, là-bas, quand tu vas dans certains pays, en Afrique ou ailleurs, quand eux, ils disent qu'ils ont faim, ça veut dire que ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas mangé et qu'ils sont en train de crever de faim. Mais toi, tu ne sais pas trop ce que ça veut dire crever de faim, donc t'as un petit creux. Ah, Seigneur. Mais c'est vrai un peu que ça se passe comme ça. Hein. Et de temps en temps, honnêtement, entre nous, de temps en temps, on a juste un petit creux, là, puis on aimerait bien avoir une parole. Enfin, moi, je sais que j'aime bien quand Dieu me parle. Hein. Donc, Seigneur, tu vois, je t'écoute, puis bon, ben, là, dans la seconde, tu vas te... Mais non, le Seigneur me dit, mais attends, t'es prêt à écouter combien de temps? T'es prêt à rester, t'es prêt à te taire combien de temps pour pouvoir m'entendre? Mais pour moi, ça, c'est devenu un secret. Et je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour entendre Dieu. Je voudrais simplement peut-être, parce qu'on n'a pas peut-être trop de temps, mais parler simplement justement de cette écoute. Jacques 1,19. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. J'ai remarqué, et c'est pour ça que je vous disais tout ça, j'ai remarqué que dans ma prière, je suis très, très spontané, très, je suis prêt à parler. Et le Seigneur me dit, attends, avant de parler, est-ce que tu ne peux pas m'écouter? Est-ce que tu peux prendre un temps de silence avant? Et je crois que ce temps de silence, il est parfois nécessaire pour accéder à cette intériorité où le Saint-Esprit est là. Tout à l'heure, Chris disait, mais on entend toutes sortes de sons. Oui, on entend toutes sortes de sons, mais moi, moi aussi, il y a toutes sortes de sons qui sortent de ma bouche. Et le Seigneur dit, attends. Prends du temps dans ce silence-là. Et je dirais que ceux qui parlent le plus sur l'estrade, ceux qui chantent le plus sur l'estrade, ça devrait être normalement les gens qui devraient parler le moins pour pouvoir être dans le silence et écouter. Et peut-être qu'on dirait des fois moins de bêtises. Je reviens à ce que je partageais tout à l'heure. Quand je sens que tout ce que je dis, c'est creux, parce que ça vient de mon intelligence, je crie au secours en disant que ta source maintenant puisse déborder. Seigneur, je ne pourrai parler que si la source déborde. Seigneur, je ne pourrai chanter que si la source déborde. Seigneur, je pourrai jouer de la musique que si la source déborde. Seigneur, je pourrai être dans la créativité que si la source déborde. Et cette source, elle est en toi. Et on peut se demander tout simplement que si ça ne jaillit pas, il y a peut-être quelque chose qui bouche la source. Voyez-vous, si demain vous devez parler de l'intériorité, vous serez obligé de parler de votre intimité. Comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez parler de l'intériorité, vous serez obligé de parler de ce qu'il y a de plus intime en vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et je crois que ça, c'est la chose qui nous débarrasse le plus de la religiosité. Là aussi, Jésus, quand il parle des gens religieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous les religieux, vous êtes toujours en train de nettoyer l'extérieur du plat. Il vaut mieux nettoyer l'intérieur. Et Jésus est... Et justement s'adresse aux religieux pour dire, mais si vous vous occupez de l'intimité, si vous avez compris ce que veut dire cette intimité-là, cette intériorité-là, vous allez commencer à vous débarrasser de ce qui est religieux. Vous me direz, ben ça, ce n'est pas mon problème. Ça, j'ai réglé, ça y est, ça c'est clair. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris ça. Mon pasteur a prêché là-dessus. Il y a quelque temps, j'ai fait un one-man show et je me plaisais à répéter... Grâce à Dieu, je ne suis pas religieux. C'est formidable, hein, parce que quand on parle des religieux, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Mais j'ai découvert une chose, c'est que quand je suis en train de parler de cette intériorité, et l'autre jour encore... J'étais en train simplement de méditer sur ces choses. J'étais devant Dieu et tout d'un coup, j'ai eu la conviction, parce que j'ai vu certaines choses, je savais que Dieu était en train de dévoiler les idoles religieuses qui pouvaient être encore dans ma vie. C'est-à-dire les représentations même que j'avais de Dieu. Dieu pour moi, et j'aime l'expression de Barthes, Barthes dit, c'est un théologien qui dit, mais Dieu c'est le tout autre. Il est le tout autre. Il y en a un qui dit, mais il est le tout ailleurs. Et à partir du moment où vous avez une représentation de Dieu, vous êtes en train, malgré tout, malgré vous, de construire une idole. Certains ont par exemple une peur de Dieu. Ils sont terrifiés. Vous savez, c'est dans la parabole des talents. Où le gars, il dit, ouais, mais je te connais, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Hein. Et le maître dit, bon, ben, si tu m'as pris pour ça, ben, alors je suis ça. Mais ce n'est pas la réalité, parce que Dieu avait démontré, il avait démontré bien avant qu'il avait donné, il avait eu des largesses. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que dans cette intimité-là, dans cette intimité-là, je découvre les idoles que je me suis faites. Mes représentations que je me suis faites. Moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui vivent aujourd'hui dans une sorte de culpabilité où l'esprit serait toujours un gendarme. Ils sont toujours là en train de se faire taper sur les doigts, ça va jamais. Et moi, mais l'esprit, ce n'est pas un gendarme. L'esprit, c'est un enseignant. Et je veux écouter l'enseignant et je n'ai pas besoin d'écouter le gendarme. Vous me direz, mais attends, ça ne peut pas se mélanger. Moi, je dis cela parce que je l'ai vu et je sais que malgré moi, malgré mon savoir et tout ce que vous voulez imaginer, je sais que je me fais une représentation de Dieu malgré moi et qui devient une idole. Mais quand je rentre dans cette intimité-là, ça me permet de dénoncer ces choses. Je veux cette intimité-là, c'est aller là, au centre même, c'est dans le temple. C'est le temple, c'est là où l'esprit est. Et c'est là où l'esprit m'enseigne. Et je ne me fabrique pas des choses imaginaires. Je ne suis pas dans l'imaginaire. Je ne veux pas être dans l'imaginaire. Je veux être à l'écoute de l'esprit. Prendra encore 5 minutes. Je dirais que pour moi, le maître mot de l'intériorité, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprends, c'est le lâcher prise. Parce qu'avec ce que j'ai dit au commencement, et je rejoins ce que j'ai dit au début, nous sommes en communion avec l'Esprit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui est monté au cœur de l'homme et que l'on n'a pas compris. Maintenant, je suis en communion avec l'Esprit. Nous avons avec Christ un seul et même esprit. Et là, nous sommes dans les choses insondables. Et là, nous sommes dans les choses que nous n'avons, là où nous n'avons jamais marché. Et là, nous entrons dans des domaines que nous ne connaissons pas. Parce que pour nous, peut-être, la vie de l'esprit, c'est parce que nous parlons en langue. La vie de l'esprit, c'est parce que nous chantons un chant inspiré. Oui, certainement. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est en communion avec l'esprit dont nous ne pouvons pas sonder les profondeurs. Et même quand il nous semble que nous sommes arrivés, mais il y a encore un tel chemin que ce qu'on a compris là, on n'a rien compris. Vous savez, je veux juste vous l'imager. Quand vous avez vous voulez creuser un trou dans la terre, vous êtes à la surface de la terre et là, vous êtes sur le superficiel, à la superficie de la terre. Et vous dites, je vais aller en profondeur. Alors vous prenez une pelle et vous donnez un coup de pelle. Et vous arrivez à 50 cm et vous êtes arrivé en profondeur. Donc vous arrivez là en profondeur. Mais une fois que vous y êtes arrivé, là où vous êtes arrivé, ben c'est plus la profondeur. Puisque vous le voyez, maintenant c'est le superficiel. Bon, il faut que je vais quand même remettre encore un coup de pelle parce que il faut que j'aille plus loin. Mais je peux faire 1 mètre, et là, j'arrive vraiment. Alors, 1,50 m, c'est profond, hein ? Oui, mais là, ce que je vois maintenant, c'est le superficiel. Vous comprenez que tout ce qui me semblait être profondeur parce que c'était caché devient superficiel parce que maintenant, je le vois. Et quand on entre dans la vie de l'esprit, on a toujours le sentiment qu'il faut encore donner un coup de pelle pour descendre encore plus bas et qu'on n'arrête pas. Et entrer dans ces choses-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est, je vous garantis, c'est déstabilisant. Et donc, il faut lâcher prise. Je ne maîtrise plus rien. Seigneur, je ne maîtrise plus rien. Toi, tu fais. Moi, je ne vais pas faire, mais toi, tu fais. Entraîne-moi. Entraîne-moi dans les profondeurs de l'esprit. Et c'est ce texte que je voulais lire en introduction et que je ne sais pas si je l'ai repris tout à l'heure, mais car l'esprit sonde, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que nous sommes entrés dans cette communion avec l'esprit où nous voyons l'esprit sonder tout, même les profondeurs de Dieu? Alors je termine. Et je donne simplement cette conclusion en disant, de toute façon, très souvent dans nos églises, dans nos communautés, l'évangile qui est annoncé, les choses qui sont faites, très souvent, le centre de toute chose, ce sont les hommes. Le message du salut. Ah, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis guéri. On a fabriqué très souvent la plus grande religion humaniste qui soit. C'est centré sur mon confort, c'est centré sur mon épanouissement, c'est centré sur mon bien-être, c'est centré sur un épanouissement de la personne. Et combien de séminaires sont faits? Et je suis pour la guérison intérieure. Vous inquiétez pas, je crois en la guérison intérieure. Mais malheureusement, j'ai l'impression que parfois les programmes sont centrés sur l'homme. Et quand il n'y a pas la bénédiction que l'homme attendait, il est fâché avec Dieu. Mes amis, s'il y a une chose que je dois apprendre, c'est que je ne suis pas le centre de l'univers. C'est Dieu qui est le centre de l'univers. On dit, ah ouais, ben on le sait. Seulement, le seul problème, c'est que dans les chants qu'on nous fait chanter, on a tout axé sur le bonhomme. Ah, je ressens, ah, je vis, ah, je suis comme ci, oh, comme ça. Non, mais attends, c'est toi ou c'est lui? Si vous me dites que c'est un temps d'adoration, alors adorez-le et vous souciez pas de votre bien-être ou de votre épanouissement. Parce que c'est justement quand on est en communion avec l'Esprit que nous commençons à vivre un véritable épanouissement spirituel selon lui. Et s'il y a un verset que je veux retenir, et pour moi ça c'est mon verset clé, si jamais il y en a un, toute chose sont créées, sont de lui, par lui et pour lui. Comme ça, on ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Comme ça, on est au clair. C'est tout pour lui. Et même, quand je suis à la recherche, quand je veux comprendre, quand je veux m'approcher, quand je veux connaître, mon but c'est de le connaître, mon but c'est de le connaître, mais mon but c'est de le connaître pourquoi ? Pour le glorifier. C'est pas pour faire une expérience, une super expérience spirituelle. C'est pas pour « moi j'entre maintenant dans les choses nébuleuses ». Non. Ma recherche, c'est parce que toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Et si tu veux avoir un leitmotiv en tant que leader de louange, leader dans l'adoration, dans la créativité, même ce que tu fais, qui est magnifique. Certainement que si tu danses, c'est magnifique. Si tu peins, c'est magnifique. Mais souviens-toi que tout ce que tu es en train de faire, c'est de lui, parce que tu ne peux rien faire si ce n'est pas de lui. C'est par lui, parce qu'il te donne ce don-là, mais c'est pour lui. Et ça, c'est ce qui doit primer dans notre vie. Le reste, c'est du pipeau. Wow, t'en passes hein? On va arrêter là, hein, présidente? On arrête là. Elle me dit oui, on arrête là. Je voudrais simplement, avant de se séparer, moi je suis pas très doué pour faire répéter les prières, donc je vais pas vous faire répéter de prières ni quoi que ce soit, mais j'aimerais simplement qu'on puisse, si vous voulez, se lever. Et peut-être dans le silence de notre cœur, moi un jour j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, vraiment tout ce que je veux faire, il faut vraiment, et je veux le faire pour ta gloire, donc pas pour ma gloire. Donc je vais le faire en sachant que tout est de toi, par toi et pour toi. Et simplement, dans ton cœur, même si tous ceux qui sont autour de toi reconnaissent que tu as un don formidable, même si tu as des grandes capacités, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et dans ton cœur, là, va à sa rencontre. Va à sa rencontre maintenant. Ne le cherche pas dehors. Va chercher, va à la rencontre de Christ qui est en toi. Cette rencontre-là, elle commence comme ça, d'une façon très pratique. Adresse-toi à Christ qui est en toi. Prends du temps pour l'écouter. Et puis quand tu sais que cette relation-là, elle existe, elle est là, elle est là, elle est là, tu lui dis tout simplement « Tout ce que je veux le faire pour ta gloire. C'est par toi, c'est de toi, par toi et pour toi. »